Bonsoir, l'équipe réduite se retrouve sur la dernière de Radio G finalement. On va pouvoir parler ce soir, toi et moi, Sébastien, mais les chroniques enregistrées de Karine
et de Jean-Hugues,
tout à fait, vont pouvoir nous raconter des choses. Sébastien, de quoi est-ce que tu veux parler, toi ?
Eh bien, moi, ce soir, je vais vous parler de petits livres-jeux, donc des livres-jeux de taille, comme tu vois, Pierre-Marie, idéal.
À la radio, c'est pratique de montrer.
Voilà, non, mais pour te t'imager un petit peu, c'est des petits bouquins donc qui sont bien pratiques à mettre dans les bagages. C'est des lectures estivales, tranquilles et tout, qu'on peut même faire sur la plage. Parce qu'il n'y a pas besoin de dés, de crayons, véritablement. Donc je vais vous parler de tout ça. Un de Valérie Cluzel et l'autre, ça c'est un exemplaire d'un autre, de Lionel Cruzier.
Très bien. Et pour ma part, moi, je vais vous parler de deux bouquins qui feront plus office de cale-porte lorsque vous aurez besoin de vous aérer un petit peu, parce que c'est un peu plus conséquent que les tiens. Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell, qui est une réédition d'un livre paru en 97. Il commence à être un petit peu âgé, mais c'est un indispensable. Et puis Estelle Faye, sa nouveauté 2022, L'Arpenteuse de rêve, dont on n'avait pas encore évoqué ce roman à la radio. Mais avant cela, c'est la musique avant tout. C'était The Shamisenist Rurumi.
Ça aurait bien collé à l'ambiance de Wakiza que je présenterai tout à l'heure.
Ouais, il fallait le dire, comme ça on l'aurait mis plus proche de toi. On s'écoute tout de suite la chronique de Karine en direct sur Radio G. De quoi va-t-elle nous parler ?
Je vais vous présenter Sony Liss d'Elonie Carlson. Elonie Carlson nous propulse en 2040 avec le tome 1 de Sony Liss. Une jeune femme nommée Jenny Cooper se réveille d'un long coma et se rend compte que son corps a subi quelques changements, puisqu'il a été reconstruit de moitié avec des prothèses mécaniques. Ses parents ne sont pas auprès d'elle et leur absence est bien mystérieuse. La société a elle aussi changé. La technologie y est omniprésente, tout est connecté, tout y est contrôlé. Jenny n'y comprend rien et part en quête de réponse. Elle veut retrouver ses parents et va rencontrer des personnes qui vont accompagner sa route, notamment Chloé, sa meilleure amie, Peter, un ancien collègue de son père, et bien d'autres. Tous ont des parcours de vie qui les ont ébranlés. C'est ainsi qu'un périple l'attend, car derrière Sony Liss, une ville auparavant paisible, se cache de d'ombres dangers. Elonie Carlson nous offre dans ce premier roman intitulé « Un monde imparfait » une image de ce que pourrait donner notre monde si la technologie ne cesse de progresser. Elle y développe ses avantages mais également ses inconvénients à travers une intrigue à la fois sociale et politique. L'autrice donne une belle dynamique à son récit avec des chapitres courts. Elle s'intéresse aux relations humaines au travers de l'amitié retrouvée entre Jenny et Chloé après 10 années d'absence. Elonie Carlson est une jeune autrice française passionnée par la science-fiction et particulièrement les technologies futuristes. Le cycle des robots d'Isaac Asimov a été la lecture qui lui a donné envie d'écrire à son tour. Touchée par les arts sous toutes les formes, elle travaille dans le domaine de l'art contemporain et je vous invite donc à découvrir cette agréable plume et son premier roman. J'ai hâte de découvrir la suite. Je vous laisse avec le titre 010 du groupe C.D. Larsen sur Radio G. We'll be right back.
amoureuse, du drame et des larmes, au simple mortel, collé au réel, comme des robots, comme du bonheur mais futile, 0-1-0, toujours si seul.
Quand toi tu écoutes ça, Sébastien, c'est un peu la musique que t'écoutes, non? Pas trop?
Oh, pas du tout, non.
Pas du tout.
Ah, c'est très
donc
clair,
le motoculteur, hein. Tu connaissais pas?
Non. Je découvre. Bah, Romain pourra nous en parler
oui.
À la rentrée.
Je crois qu'il y avait un lien avec le vaisseau, entre le motoculteur et le vaisseau, mais ça, c'est quelque chose que tu voulais présenter, l'animation au vaisseau, Sébastien.
Oui, mais maintenant. J'ai ramené un article. En fait, il y a un escape game donc, qui a lieu donc, tout le long de l'été, mm-hmm. Bah, toujours au vaisseau, mais qui est plus en fin de compte, qui donne plus à voir une expo, mais qui donne à vivre un escape game.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le vaisseau?
Alors, le vaisseau, à la base, c'est un bâtiment qui va être rasé, mm-hmm. Donc, et le bailleur, là c'est Podelia, a accepté que des graffeurs, entre autres, viennent maquiller, déguiser un peu le bâtiment pour un peu une immersion dans tout ce qui est art, street art, art numérique.
Alors, c'est le vaisseau, donc c'est un énorme bâtiment, c'est situé aux 7 rues de Beauval.
C'est tout à fait ça. Oui.
C'est dans quel coin à peu près, puisque c'est indiqué cette rue?
C'est vers l'espace Casino Roseray.
D'accord, ok. Accessible à pied ou plutôt en bus.
Oui.
Ok, donc là-bas, vous pouvez faire un escape game, surtout que là, sur la période estivale, Get Out, le grand complexe d'escape game qui se situe à côté d'Espace Anjou, a refait son événement de découverte de la ville pour les touristes sur base d'escape game. Donc vous faites un escape game directement dans le centre-ville d'Angers avec toute une démarche à faire qui vous permet de découvrir les différents bâtiments historiques de la ville. Pour la suite, c'est Jean-Hugues qui va nous faire une chronique suivie d'une magnifique musique que tous les cinéphiles et sérivores reconnaîtront très très facilement. À l'antenne au 101.5 Radio G, c'est l'équipe imaginaire.
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers auditeurs, mes enfants, ma chérie, bonsoir. J'ai vu une série de films depuis la dernière fois que j'ai chroniqué pour vous et c'est un miracle. que vous ne m'ayez pas retrouvé empalé sur un cône de chantier géant. Non, non, je ne vous les citerai même pas. Il est vrai que j'aurais dû être prudent et au moins lire les pitchs. Ça m'apprendra, on ne m'y reprendra plus. J'avais vu à l'époque de sa sortie la série Breaking Bad. Mais si, vous savez, Heisenberg, le prof de chimie, qui apprend qu'il a un cancer et qui décide de se payer ses soins en fabriquant de la méthédrine d'une qualité exceptionnelle et de couleur bleue. D'ailleurs, une marque anglaise célèbre a fait un liquide à vapoter de légende et de couleur bleue aussi, au doux nom d'Heisenberg. J'avais beaucoup aimé la série, même si je commençais à la trouver longuette. Parmi tous les héros, il y avait Gus Fring, un grand trafiquant de drogue, son homme de main, Mike Herman Trout, et leur avocat, Saul Goodman. Better Call Saul est donc un préquel de la série Breaking Bad, où l'on retrouvera tous les personnages que je viens de citer, et donc leur histoire quelques années avant la série Breaking Bad, dont Saul Goodman, qui est en fait le pseudo de Jimmy McGill, le frère cadet de Chuck McGill, un as du barreau d'Albuquerque, qui a fondé un cabinet d'avocats où il règne en maître incontesté. Jimmy McGill a commencé à distribuer le courrier dans le cabinet d'avocats de son frère, en même temps que Kim Wexler, qui va voir ses études d'avocat payées par le cabinet. Kim et Jimmy entretiennent une relation amoureuse, Kim étant manifestement charmé par le dynamisme et les méthodes amusantes de son compagnon, car Jimmy a un passé de petit escroc, dont il a fait table rase, mais dont il a gardé les méthodes. Ce qui n'est pas sans lui provoquer quelques ennuis. La série est moins violente et moins sinistre que la série Breaking Bad, voire je préfère les aventures de Saul Goodman à celles d'Heisenberg. C'est plus malin, et le personnage principal est vraiment atypique et attachant, malgré les quelques... Ah non, Jimmy, ne fais pas ça ! Que je n'ai pas pu m'empêcher de pousser. Bon, les épisodes font 46 minutes, il en existe 10 pour chacune des 5 premières saisons, et il y en aura 13 pour la 6e et dernière, qui est diffusée au moment où je vous parle. Et puis, j'ai lu des livres. Allez tous vous faire foutre ! Oui, je sais, c'est un roman policier de Aidan Truyen, sorti chez 10-18, et je l'avoue avec honte, c'est essentiellement le titre qui m'a fait lire le bouquin. Aidan Truyen, d'après le New York Times, n'est autre que Nicolas Cornwell, plus connu sous son nom de plume de Nick Harkaway. C'est un auteur britannique qui a écrit des romans polars et fantasy que je n'ai pas lus, dont deux sont sortis en français. Il s'avère qu'il s'agit du fils de John le Carré, mais comme vous le savez, le talent n'est pas génétique, quoique j'ai eu une conversation absolument stupéfiante avec des amis sur l'épigénétique et que tout est possible. Bon, là, c'est pas du tout évident. Alors, félicitations au traducteur, Fabrice Pointeau, de chez Sonatine, chez qui le roman a été édité avant 10-18 et qui nous a traduit le titre « The Price You Pay », soit « Le prix à payer », par « Allez tous vous faire foutre ». D'un point de vue marketing, c'est parfaitement réussi, j'en suis la preuve vivante. Comme diraient nos philosophes tontons flingueurs, je cite « D'un point de vue ludique, je ne dis pas, mais au niveau du tact, il y a à dire ». Le pitch, Jack Price a mis au point un réseau de trafic de stupéfiants parfaitement réglé, qui le laisse blanc comme neige. Blanc comme neige, bon, quelle façon. Et lui assure un train de vie de saoudien bien né. Mais sa voisine du dessous, une mamie acariâtre, se fait tuer de 3 balles. Le niveau de survie des grands voyous se basant sur une paranoïa de bon aloi, Jack pose des questions parmi ses contacts mal lui en prend, puisqu'il apprend que suite à ses interrogations, un contrat a été donné à un groupe de tueurs à gages particulièrement dangereux, les 7 démons. Et décide donc de réagir avec force et vigueur. Je vous passe la suite du scénario qui est en mode « Quoi, tu m'embêtes? Putain, tu vas voir ta gueule !» sans aucun intérêt. Mais le roman est écrit à la première personne et chose amusante, Jack part de temps en temps en live dans des divagations qui ne sont pas sans rappeler un commissaire de nos amis, le San Antonio. Bon, du coup, pour les fans du divin commissaire, ça tombe à plat. Car Aidan Truyen n'a ni la verve ni l'expérience que pouvait avoir Frédéric Dard dans le domaine. Pour les autres, l'exercice est marrant. La couverture de 10-18, tout comme celle de Sonatine, est aussi racoleuse que le titre, puisqu'il s'agit d'un doigt d'honneur d'une main poilue avec le majeur orné d'une chevalière représentant une tête de mort à la mexicaine, qui dans tous les cas n'a aucun rapport avec le roman. Et puis... J'ai lu « La quête des avatars » d'Arnaud Cuidet, paru chez Pulp Factory. Ouais, je sais, tout le monde va dire « Ah bah lui, c'est un de ses meilleurs amis, ça va être binonné sa chronique. » C'est là où je regrette l'hibernation prolongée de Tyrannosaurus Imperium, dont je me félicite et par ailleurs à plus d'un titre. Alors, chers auditeurs, sachez que quand je trouve un roman français sans intérêt, je ne le chronique tout simplement pas, y compris, voire surtout, ceux d'amis auteurs et autrices. Ah, vous voulez des noms ? Ben non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud Cuillet, je l'ai rencontré, recruté comme meneur de jeu maison à la boutique Phenomenji à Paris en 1997, et non, on ne rouvre pas. Enfin, pas là-bas, pour le moins. Puis, comme vendeur d'élite. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Arnaud a très vite intégré le monde professionnel du jeu de rôle. N'hésitez pas à lire Le coin de l'archiviste dans notre fanzine La tête dans le donjon, et là vous saurez tout. Il a intégré Multisim, Rakan, Cassius Belli, et j'en passe. Puis il a créé le jeu de rôle qu'il a rendu célèbre, mon Metal Adventures, ainsi que Fausse Commando. Connaissant ses talents scénaristiques, je l'ai invité à écrire une nouvelle pour l'anthologie imaginaire. Invité au Festival Imaginaire, il a rencontré notre maître à tous, Philippe Ward, de Rivière Blanche, et s'est mis à écrire des nouvelles un peu partout, et un cycle chez Rivière Blanche, puis a été édité par le Carnoplace du Sieur d'Arvel et Pulp Factory. La quête des avatars est un space opéra métaphysique. Bon, ce qui, je vous l'accorde, ne veut absolument rien dire sans décortiquer la bête, décortiquons donc. Il y a deux niveaux de lecture dans le roman. Le premier est un space opéra avec des dieux ou tout du moins leurs avatars, ce qui enrichit violemment le space opéra classique. Un pitch est le bienvenu, pitchons mes braves. Malissa vit sur une planète babacool qui se fait envahir par des Reknir. C'est des guerriers qui bénéficient d'une technologie militaire avancée et des moyens indescriptibles en nombre et en puissance de feu. Autant dire que les babacool, genre tu vois les Na'vi dans Avatar, se font exterminer ou emprisonner afin de se faire sacrifier au dieu des Reknir, au doux nom de Ragdar. Malissa est en train de se diriger vers l'abattoir, elle prie son dieu Ignis, et stupéfaction, eh ben, il débarque le Ignis en mode ange, armé d'une arme que les épées laser de Star Wars a fait cure-dent, et il démonte tout le monde, alors les prêtres, les soldats, le temple, les croiseurs stellaires stationnés au-dessus, bref, pas content le Ignis. Alors forcément, la Malissa, elle est un petit peu surprise, surtout quand Ignis vient bavasser avec elle, genre comme si c'était une copine de bistrot. Les autres dieux, eux, ne sont pas bien contents, arguant du fait qu'Ignis a peut-être poussé le bouchon. Lors d'une rencontre entre les dieux, un peu plus tard, on note cependant qu'Ignis est appelé par ses pères Espoir et Ragnar Conflit. Bon, la pauvre Malissa va être entraînée dans une série d'aventures où Ignis interviendra à plusieurs reprises, mais il va vraiment finir par énerver tout le monde, le pauvre Ignis, et il va lui arriver des bricoles. Malissa va la jouer bien servable, mais va finir par se poser des questions. Et les bonnes. En mode, mais quelles sont ces créatures qui jouent avec le destin de toute vie dans la Mad Galaxie ? Enfin, comme le dit souvent Patrice Véry, dit l'homme au chapeau, ce qu'il y a de bien avec le roman science-fiction par rapport au film, c'est que le budget effets spéciaux est illimité. Et Arnaud Cuillet a bien compris le concept, et sachez que je n'ai jamais lu un roman de science-fiction où les événements sont aussi titanesques. Et genre les étoiles de Star Wars, Noir, de la Mort, etc., c'est des jouets pour enfants. C'est tout simplement énorme. Comme toujours avec Arnaud, l'écriture est simple et efficace, les scènes d'action nombreuses. On lit le roman d'une traite. Et le côté métaphysique alors ? Espoir, conflit, de bien drôles de noms pour les dieux. Et il en existe d'autres, comme pouvoir par exemple. Que se passe-t-il si pouvoir et conflit s'associent ? Reste-t-il espoir ? Alors, je n'hésite pas à le dire, il y a une pointe de Neil Gaiman dans le roman d'Arnaud. Un bien beau moment de lecture, donc, pour vos vacances haussiennes.
Just to let me know. Too many got my time. Beautiful. up a week, it'll be enough. Not a chance.
Donc d'un nouveau livre de Valérie Cluzel, Le Concours du Perfora, qui a été édité donc par Dragon d'Or, qui fait partie d'Edilhuit, du groupe Edilhuit. Je vous en avais déjà parlé de Valérie Cluzel à l'occasion d'une interview, si tu te souviens, Pierre-Marie, avec Le Nuage aux 100 licornes, chez 404 éditions. Et alors je tiens à faire un petit clin d'œil amical à Jean-Hugues, comme tu le sais, Pierre-Marie, qui a initié un nouveau type d'interview, des interviews off, qui ont eu lieu pendant le festival Imaginaire donc, de cette année. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est sous-titré « Quel talent ?» Et il a eu donc Valérie Cluzel, où il revient avec elle donc sur quelques-uns de ses secrets de fabrication d'un escape book. Et vous pouvez retrouver ça, les amis, sur notre chaîne Festival Imaginaire Angers, ou Imaginaire Festival Angers, donc chaîne YouTube. Et j'ai une question pour toi, Pierre-Marie, une seule. D'où est venue l'idée donc de ces interviews?
Alors, comme tu te souviens, Jean-Hugues est l'initiateur du Salon Imaginaire, de l'association Imaginaire et de la mise en place de toute la promotion des acteurs de l'imaginaire. Ce à quoi s'est greffé quelques années plus tard, Romain, grâce à qui nous pouvons être là ce soir, puisque ça va faire pas loin de 10 ans que nous avons notre émission Imaginaire au 101.5 et que nous participons, Jean-Hugues, Romain et moi, depuis ses débuts. Sauf que Jean-Hugues, de par sa vie, de par son âge aussi, s'est un peu à peu retiré de l'association, même s'il est toujours autant impliqué moralement, physiquement, il habite loin. Et il voulait revenir au centre de ses convictions, à savoir mettre en avant les talents. Et puis, depuis 2020, Covid, année Covid, il a fait appel à un de ses amis qui, devenu à la retraite, est venu s'installer dans le coin et qui était, on va pas dire cinéaste, mais quelqu'un qui avait l'habitude de faire des films et de capter des séquences. En 2021, lors de notre édition reportée, il avait fait des petites séquences, notamment sur le salon en tant que tel, mais aussi de l'armée de l'ombre du salon, puisque, contrairement à ce qu'on voit, l'énorme majorité du salon pour nous se passe en amont et en aval, et surtout se passe dans l'ombre. La totalité de ce que nous préparons pour les invités et de ce que nous devons ranger après se passe en dehors des visites, en dehors de la présence de ces salles. Et du coup, Jean-Hugues participant à ça, il avait récupéré quand même le poste le plus prestigieux du salon, à savoir barman. Il n'avait plus beaucoup d'interactions avec les auteurs pendant le salon. Il s'était dit que justement, il allait pouvoir, en parallèle du travail que pouvait faire Justine avec les interviews que nous menons en visio, il allait pouvoir faire avec Sylvain des interviews courtes, des interviews flash de certaines des personnes qui, bah en fait, qui n'ont pas la même renommée que les poids lourds qui arrivent à notre festival. L'idée est donc de pouvoir mettre au même niveau des jeunes talents comme Valéa Cluzel ou Benjamin Calam que des talents immenses et récompensés maintes fois tels que Estelle Faye ou Jean-Laurent Del Socorro.
D'accord, donc voilà les amis, donc si vous n'avez pas encore vu la première interview en off donc de Jean-Hugues, retrouvez-la donc sur notre chaîne Imaginaire Festival Angers.
Je fais une petite parenthèse, ce qui est très drôle et la chose qu'il faut savoir lorsqu'il y a cette interview flash, au moment où l'interview commence, c'est le moment en fait où les auteurs découvrent qu'ils sont interviewés. Il n'y a pas de préparation, c'est vraiment pris sur le fait, il faut mettre au pied du mur les auteurs pour découvrir l'homme ou la femme ou l'homme derrière la plume.
Et donc la femme en question, donc c'était Valérie Cluzel, une autrice de livres interactifs. Donc elle en a écrit quand même beaucoup d'escape books et même des petits escape books du type Koh-Lanta, Fort Boyard. Donc ça se rapproche davantage un peu des livres dont vous êtes le héros, Pierre-Marie. C'est pas vraiment des escape games mortels comme là l'héritage perdu au vaisseau. Hein. C'est beaucoup plus simple.
Alors moi, je me suis arrêté à son Belphégor parce que ça a ravivé un petit peu des cauchemars d'enfance et j'ai adoré son livre.
Alors tu fais bien d'en parler parce que là, c'est un escape book adulte, parce qu'elle s'adresse autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés donc, d'entre nous. Et Belphégor, donc, il a été édité chez Larousse, donc Jean-Hugues en parle. Et là, le concours du Perfora, même s'il est adressé pour des jeunes de 8 à 10 ans, un adulte, comme toi, moi, Pierre-Marie.
J'ai jamais dit que j'étais adulte.
En tout cas, on peut vraiment s'y retrouver, prendre vraiment du plaisir, parce qu'on a, on a tous, hein, je pense en tout cas, toi Pierre-Marie, vu Fort Boyard, étant plus jeune dans les années 90.
Oui, tout à fait. Il y en a ici qui n'étaient pas nés quand Fort Boyard s'est arrêté.
Et donc là, on est quand même à la 33e saison de Fort Boyard, et moi, ça m'a permis un peu de découvrir vraiment les nouvelles épreuves, parce que dans le concours du Perfora, il s'agit donc de faire venir des personnes de toute la France qui ont concouru donc pour pouvoir profiter d'une semaine à La Rochelle. Sauf que le Perfora, comme vous le savez les amis sur le 101.5, c'est quelqu'un qui est très rusé, qui est très farceur. Eh bien, il va faire venir ces personnes, mais en fait pour leur faire tester ces nouvelles épreuves. Des épreuves qui peut-être pour certaines se retrouvent dans les nouvelles émissions, donc je regarde moins aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas d'Olivier Mine dans le petit bouquin, là, le concours du Perfora. C'est vraiment un scénario qui a été inventé. C'est le Perfora un peu qui est l'instigateur de tout ça. Et d'ailleurs, il va communiquer régulièrement avec nous donc, au fil des pages, au fil des paragraphes qu'on va faire, par des parchemins informatifs qui vont être amenés par Passe-Muraille, muet comme une carpe. On n'arrivera pas à lui faire délier la langue, tout comme Passepartout d'ailleurs. Alors moi, ce que j'aime bien dans le concours du Perfora, alors c'est assez dirigiste, on n'a que 105 paragraphes, ok. Mais quand même, on rit bien, et il y a quand même un petit challenge, même moi j'ai échoué. Alors dites pas dans le studio que j'ai perdu, je suis passé par la casse-prison, mais ça m'a permis, les amis, de rencontrer le fameux Chef Willy, un personnage célèbre du fort, qui est devenu shérif cette année d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé, c'est que même si on échoue, on peut très bien donc s'en sortir une fois. Mais si on échoue encore une deuxième fois, là, on passe à la trappe et on est obligé de tout recommencer. Un peu comme dans Fort Boyard, on doit quand même cerner les points forts, les points faibles des candidats avec qui nous sommes. Là, on doit être au moins à peu près à 5 candidats avec qui on fait équipe. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on cerne bien leurs points forts, eh bien, ils vont nous aider efficacement dans certaines épreuves.
Mais ces participants dont tu parles là, avec qui il faut cerner les points forts et les points faibles, ce sont des personnages d'encre et de papier. On n'est pas obligé d'être à 5 autour du livre.
Ah ouais, non, c'est que des personnages d'encre et de papier, mais ça fait plaisir quand même de pouvoir diriger autant de personnages et qui ont quand même, même s'ils ne sont pas décrits vraiment physiquement, parlant, ils ont quand même des caractéristiques qui leur sont propres et ils ont vraiment une identité qui fait qu'on s'attache à eux. Il y a James, par exemple, Pierre-Marie, qui n'aime pas nager. C'est étonnant, il vient à Fort Boyard donc, pour vous rappeler qu'il y a un vaisseau de pierre donc, pas loin de l'île d'Aix. Donc on part de La Rochelle et du coup, lui, il n'aime pas nager. Mais il vient quand même en bateau, il nous dit bah, « j'ai peur de l'eau ». Donc si tu l'envoies faire le plongeon là, du haut du fort, c'est mort.
Ouais, bah, maintenant, à l'émission, les participants arrivent en hélicoptère, ils ont laissé tomber le bateau.
Ouais, mais là, dans le concours du père Foura, c'est quand même c'est bien d'arriver en bateau. C'est en référence à l'histoire. Et d'ailleurs, tu avais un premier Fort Boyard qui était paru chez Hachette en 2011.
Alors, plus exactement, dans la Bibliothèque Verte. Et effectivement, parce que celui-ci, je m'en souviens.
Aventure sur mesure, et tu as énormément d'épreuves anciennes comme le manolier, le tuyau transparent, le tapis roulant, tout un catalogue d'épreuves en fait. Et là vraiment c'est la nostalgie pure et dure, mais avec Valérie Cluzel, on dépoussière un peu tout ça. Et il y a quand même des petites inventions que j'aime bien, le fait de faire chronométrer des épreuves, dont celle de la salle du trésor, mais tout en lisant. C'est-à-dire que tu mets ton chrono, à peu près 4 minutes, et tu dois deviner le mot-code à l'aide des indices que tu as récoltés au fil des aventures. Bref, bon, c'est assez court comme je vous l'ai dit, mais j'ai bien aimé ce petit temps de chrono parce que ça m'a fait perdre. J'étais stressé. Je n'arrivais pas à trouver le fameux mot-code. Et là, les amis, je vais piéger Pierre-Marie.
Merde.
Alors, Père Foura m'a demandé donc de lui poser une énigme qu'il y a dans La Conquête du Trésor, le fameux Hachette que Pierre-Marie me dit avoir lu. Et va-t-il se souvenir donc de la réponse ?
C'était il y a plus de 10 ans.
Alors, attention, attention. Au soleil, il faut qu'on l'étale. On le regarde en temps normal. S'il est petit, on l'a chez soi. Et s'il est grand, il est en salle. Qu'est-ce ? Tic-tac.
Au soleil, on l'étale ?
Une minute. Au soleil, il faut qu'on l'étale. On le regarde en temps normal, s'il est petit, on l'a chez soi, et s'il est grand, il est en salle. Qu'est-ce ?
Oh, je sais plus du tout.
Alors attention, parce que là, tu vas aller en prison.
Bah tant pis, ça sera une fois de plus, c'est pas très grave.
Alors moi, si j'ai échoué la première fois, j'avais mis film, c'est écran. La réponse.
Effectivement.
Et donc... Là, j'ai cité à La Conquête du Trésor, mais également dans le concours du Père Foura. Mes amis, vous savez bien que c'est incontournable d'aller à la vigie du fort. Et là, vous allez avoir un Père Foura, mais qui ne va pas vous poser une énigme comme là, j'ai posé à Pierre-Marie, mais en fait, un petit jeu matheux. Donc, ça change quand même.
Ça fait devoir de vacances, en fait.
Un peu devoir de vacances aussi. Hein. Donc, voilà. Et donc, pour finir, franchement, Valérie Cluzel a réussi un joli petit livre. Avec aussi des plans numérotés donc des étages du fort pour pouvoir donc aller d'un paragraphe à l'autre. Et franchement, pour moi, tant son Koh-Lanta, Les Aventuriers des Caraïbes, qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, que le concours du Père Foura, toujours à Dragon d'Or, à un prix quand même honnête de 7,95€. Donc on a quand même besoin d'un petit crayon, d'une gomme, mais vous pouvez l'emmener en vacances. Et vous allez vous distraire, c'est pour les 7 à 77 ans. Allez, on y va à La Rochelle ? Et maintenant, Fort Boyard en thème.
Thank you.
ça nous replonge en enfance, tout ça.
Voilà, donc c'était une cover médiévale, et je pense qu'aurait apprécié Flavien, qu'on avait reçu, tu te souviens, Pierre-Marie, le 28 juin, donc qui a fait un album en elfique, Alcara.
Oui, tout à fait.
C'est un petit clin d'œil aussi amical à notre ami Flavien. Et donc, je vais vous parler très brièvement de Wakiza, donc un livre-jeu qui a été sorti par l'éditeur L'Alchimiste, mais l'alchimie n'a pas pris en fin de compte sur moi. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait...
Je suis dépité par le jeu de mots, mais continue.
Parce qu'en fait, Lionel Cruzy, alors certes, il a adapté, alors c'est pas courant, donc une de ses nouvelles donc en livre-jeu. Mm-hmm. Donc c'est pas l'inverse. Mais on n'a pas l'impression d'un vrai livre-jeu. Je l'ai passé à Benoît Patrice aussi. Mais on a l'impression d'un roman interactif où même si on échoue, eh bien on n'est pas sanctionné. Donc en fait, on revient indéfiniment donc, dans le hall d'une maison bostonienne qui est hantée par un démon, le Wendigo, et ça rappelle un petit peu le morceau du début là qu'on a passé du groupe chamanique, et qui aurait peut-être pu me relever d'entre les morts, enfin d'entre le sommeil, lorsque je tentais de finir ce livre-jeu. Donc il aurait pu être meilleur s'il avait davantage mis l'accent sur les ressorts ludiques. Donc je suis mi-figue mi-raisin, et je trouve que c'est même prétentieux donc d'avoir ce type de livre-jeu qui dit qu'on veut réinventer un peu le livre-jeu, alors qu'en fait, ça n'invente rien. Donc là, ça a été une déception, et d'autant plus que le prix quand même est assez prohibitif, 15,50€. Donc je m'attends à mieux par la suite de l'éditeur L'Alchimiste.
Bah voilà, ils sont habillés pour l'hiver avec tout ça.
Et donc là, je vais vous parler donc, encore brièvement là, d'un EP que j'ai beaucoup aimé par contre. L'EP donc, de Barbara Rivage, un duo qui est...
L'EP, c'est
Un disque de 5 titres, donc Éternité, donc à écouter éternellement, donc tout au long de vos longues soirées d'hiver et même d'été. Et c'est de Barbara Rivage, un duo qui est né aux Beaux-Arts donc, d'Angers. Et pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup donc, ce qu'ils font, c'est de la cold pop, avec aussi un guitariste, Vivien, on confond, et qui a vraiment un jeu que j'aime particulièrement, vous allez pouvoir l'apprécier dans le final des images, sur le 101.5.
Lentement se dévoilent les images qui s'oublie à moi. Et s'étendent sur mon corps blessé d'avoir vu ton orage. Et les nuits qui fractionnent et les branches qui frappent quand ta main dans la sienne. Mais le soleil respire encore, mais nos jours sont d'or. Le soleil respire encore, mais nos jours sont d'or. Je te vois bras ouverts, il s'oublie à toi. Tu as bu ces mots comme une eau tiède que tu gardes en toi.
transition, je vais pouvoir vous parler de Cassandra qui habite dans le royaume de Claren. Qu'est-ce que je raconte ? Estelle Faye, je vais vous parler d'Estelle Faye plutôt et de son roman L'Arpenteuse de rêves. L'erreur est faite exprès, les deux sont intimement liés. Sorti en 2021, pile pour le Salon Imaginaire reporté, comme vous avez pu vous en rendre compte, puisque vous y étiez avec nous, à vous geler un petit peu dans ces greniers Saint-Jean glacial sans chauffage en plein hiver. Merci la mairie, on vous aime. L'Arpenteuse de rêves est sorti, il a fait une sortie remarquable d'ailleurs, puisque ovationné par la critique, sélectionné dans pas mal de prix, qui ont été donnés en 2022. L'année 2022 n'étant pas finie, les sélections, elles, continuent. De quoi va-t-on parler ? Eh bien, comme je vous le disais, du royaume de Claren. Le royaume de Claren, c'est juste une ville. Ce n'est pas un vrai royaume, c'est une cité-état. Claren, c'est une ville, donc, sise au sommet d'une colline. Enfin, le palais est au sommet d'une colline, entouré de la ville. Et plus on descend la colline, plus les demeures se font pauvres, rachitiques, délabrées. En bas de cette colline, une rivière. Elle n'a pas de nom. Elle ne sert à rien, cette rivière. Enfin, si, elle sert beaucoup pour la ville, puisqu'elle sert à évacuer les déchets de cette ville. Nous sommes dans un roman intemporel. C'est une époque industrielle, comme on aurait pu en vivre, comme on en a vécu d'ailleurs. Mais si vous êtes joueur comme moi, souvenez-vous de Fable 3. Cette cité à la base de l'industrie, commencement de l'industrie, avec les armes à feu et les idées surtout. Beaucoup d'idées, entre le capitalisme et le communisme, l'anarchie aussi. Et on voit Cassandra d'ailleurs. Cassandra a un don, elle est arpenteuse de rêves, comme le titre d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle peut aller dans les rêves de chacun. L'endroit le plus intime de votre conscience, l'endroit où votre cerveau, votre subconscient règle tous ses problèmes, remet les pendules à zéro, elle peut y pénétrer. Elle n'est pas seule, c'est un don, même s'il n'est pas commun, c'est un don qui n'est pas rare non plus. C'est d'ailleurs une des premières industries, on pourrait dire, de Claren, qui est une académie spécialisée dans la formation de ces arpenteurs ou de ces arpenteuses. On ne le devient pas, on est comme ça, mais on s'instruit, on augmente ses compétences, ses capacités, et d'ailleurs Claren en a fait un vivier. Cette ville envoie tous ses étudiants au service des autres peuples, qui servent d'espions. Parce que finalement, il n'y a rien qu'on peut protéger dans son subconscient. Et du coup, Claren a mis en place, elle n'a pas besoin d'armée, puisqu'elle sait à l'avance si jamais on va essayer de l'attaquer. Et elle va pouvoir faire pression sur ses alliés pour qu'on me la défende. C'est hyper important, ces arpenteurs et ces arpenteuses. D'ailleurs, ils sont tous bien nés. Naître arpenteur, c'est ne plus se soucier du faim ou du froid. Bien sûr, on considère que pour être arpenteur, c'est un peu comme les Jedi. Ils ne naissent que dans les bonnes familles. Bah non, Cassandra, elle est née dans le ghetto. Elle est née dans la population opprimée, qui meurt à petit feu dans toutes les usines, et qui ne se nourrit que des déchets de la ville opulente de Claren, et ne boit que les eaux polluées de la rivière. Dans ces eaux-là, d'ailleurs, avant, il y avait des sirènes, il y avait des tritons, il y avait des animaux fantastiques. Il ne reste plus qu'un. Cassandra va la rencontrer. En fait, je ne vous ai pas dit, mais Cassandra, elle est un peu particulière puisque c'est une arpenteuse de rêves. Et bah, comme tous les arpenteurs, elle rentre dans les rêves, mais elle a un don. Elle peut sortir des objets de ces rêves-là. Elle donne forme réelle aux rêves. Du coup, c'est une ressource que, bah, comme dans tous les ghettos, les différentes bandes, les Apaches ou la mafia, s'arrachent puisqu'elle est capable de créer des clés, des meilleures prisons, ou déterrer les secrets les mieux enterrés, en sortant juste les objets des rêves. Elle est courue, mais pas au sens d'une belle richesse. On fait pression sur elle, on la menace. On la menace pas vraiment, on menace sa sœur, Lysenne. Lysenne, c'est un petit peu le point faible de Cassandra. Elle ferait tout pour sauver sa sœur, pour la protéger. Ouais, mais Lysenne a été enlevée. Et l'Apache, le dirigeant, fait pression sur elle pour qu'elle fasse... qu'elle utilise son don. À la suite de cette mission-là, Cassandra, premier chapitre, explique à cet Apache que c'est la dernière mission, qu'il veut récupérer Lysenne et qu'elle changera de ville. Tant pis pour son don. Elle veut absolument s'en sortir et faire en sorte que sa sœur ait une belle vie en dehors du ghetto. Ouais, mais voilà, c'est un Apache et il n'est pas prêt à laisser tomber une ressource aussi rare. Et s'il ne peut pas la voir, personne ne l'aura. Il lui tire dessus. Sa sœur meurt sous les yeux de Cassandra. Cassandra est touchée. Elle tombe dans la rivière où un triton la sauvera. Elle fait d'ailleurs une promesse. C'est son don qui a tué sa sœur, indirectement, mais tout de même. Et elle va se promettre de ne plus jamais utiliser son don. Quelques années plus tard, elle est toujours en deuil. Sa promesse tient toujours le coup. Elle a changé de nom, elle s'appelle Miri, et elle est au service du ghetto. Elle vit toujours au ghetto et elle aide les plus démunis comme elle peut. Mais voilà, un autre souci fait son apparition, et d'ailleurs ce sont des apparitions, des spectres commencent à hanter le ghetto. Ils hantent le ghetto, mais ils hantent certaines personnes en hantant directement leurs rêves. Il n'y a plus de sommeil réparateur que des nuits de cauchemars infinis. Les gens épuisés par le travail, par le labeur, oppressés, mal nourris, mal logés, n'ont même plus la possibilité de se réfugier dans leur sommeil. C'est une épidémie, et certains préfèrent se tuer plutôt que de renfoncer les rêves. Le seul rempart qu'il pourrait y avoir, ce sont ces arpenteurs qui pourraient les protéger dans leurs rêves. Oui, mais est-ce qu'on pourrait accepter de gaspiller des ressources aussi précieuses pour la survie de quelques déshérités ? Non, bien sûr que non. Dans ce roman, vous allez trouver de l'écologie, puisque les spectres ne viennent pas par hasard dans le ghetto, là où toutes les usines tournent à plein rendement. Vous allez parler donc d'écologie, mais aussi de social. Est-ce que tous les humains se valent ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou pas ? Ici, il n'est pas question d'ethnie ou de race, mais vraiment de caste. On parlera aussi d'économie. Dans l'économie, est-ce que le ruissellement, par exemple, dont on parle depuis quelques années en France, est une réalité ? Est-ce qu'il y a des choses à en dire ? On va parler de beaucoup de choses. Famille recomposée, déshérité, orphelin, maladie. Tout ce qui fait notre société condensée en une seule cité. Lisez ou mourrez. Et je vous quitte sur The Light du groupe Disrupt. Bonne soirée. Tragedy.
show you the light.